Sixièmement, des erreurs au regard de la science, et il y a un point important de ma problématique qui se trouve touchée ici. Et septièmement, des violations de la morale naturelle, des apparences d'affirmation du Midrash qui apparaîtraient comme violant la sensibilité de la morale naturelle. Voici donc, si vous voulez, les sept points qui, à travers le Be'er Hagola, ont contribué à la réhabilitation du Midrash, encore une fois, non pas seulement comme langage, comme méthode, mais aussi comme contenu de la tradition juive. J'aborde ici un point qui me semble assez important. Je vais prendre un seul exemple, par faute de temps bien entendu et de capacité d'ailleurs, un seul exemple de ce que André Neher a choisi comme exemplaire de l'originalité de la pensée du Maharal. C'était un enseignement qu'on trouvait déjà chez les anciens. C'est l'enseignement dialectique, d'où d'ailleurs le sous-titre du livre « Le puits de l'exil », la théologie dialectique du Maharal de Prague. Un des grands problèmes du monothéisme hébreu, donc du monothéisme juif, c'est d'arriver à penser ensemble des contraires. L'affirmation monothéiste d'Israël est un monothéisme de l'unité. Diverses valeurs, toute valeur, toute absolue, se rencontrent dans une contradiction dans la notion d'unité. Et ce n'est pas le centre du sujet, mais c'est pour introduire l'importance de la catégorie du Emsar, de la catégorie du milieu, dont André Neher a tellement parlé dans ce livre, et qui fait effectivement l'essentiel de la spécificité du renouvellement de formulation du Maharal. Mais je l'indique assez rapidement pour montrer à quel point c'était un des axes principaux des préoccupations de la tradition juive. Et la tradition philosophique en général, d'ailleurs, comme nous allons le voir. Il y a deux types de monothéisme. Il y a le monothéisme de l'unité, qui affirme l'unité de ce que nous percevons comme des contraires, et d'autre part, le monothéisme de l'unicité, qui lui est surtout le monothéisme de l'islam. Le monothéisme de l'islam, qui est le monothéisme de l'unicité, consiste à affirmer que s'il y a Dieu, il y en a un seul, que Dieu est unique, et il s'oppose à la vision polythéiste de l'univers. Alors que le monothéisme de l'unité va au-delà. Il consiste à affirmer que ce Dieu qui est unique à être Dieu est un en lui-même. Et c'est là qu'il y a l'affrontement avec la problématique philosophique universelle. Car les modalités de manifestation de cette unité sont dans notre monde contradictoires. Comment donc penser ensemble des contraires? Dès que l'on fait l'énumérer des attributs du Dieu un, on s'aperçoit qu'on est renvoyé à une pluralité d'absolus contradictoires. L'originalité donc du penseur du judaïsme parlant vis-à-vis du monde extérieur tout en exprimant sa propre connaissance de la vérité, eh bien, se situe dans ce problème. Alors, je pense que c'est cette intuition qui a permis à André Neher de faire cette redécouverte de ce que le Maharal nous donne au temps de la Renaissance. C'est l'intuition du Emtzar, que la vérité est au milieu. Et alors là, à partir de ce moment-là, il vaudrait mieux s'arrêter de parler et commencer à lire. On ne refait pas les analyses qui ont été faites, et les reports dans notre vocabulaire risquent de les rendre plates. Je vais quand même tenter très rapidement. Bien avant le Maharal, André Neher cite deux grands maîtres, Maïmonide d'une part, et Moshe Cordovero d'autre part, puisque le Maharal, d'après les explications que nous lisons, n'est pas censé avoir connu l'œuvre du Hari, qui a succédé à Rabbi Moshe Cordovero dans l'enseignement de la Kabbalah. Et Rabbi Moshe Cordovero, qu'on connaît sous le nom du Ramak, est connu par le Maharal, le Hari, l'enseignement du Hari, pas encore. Et donc on s'arrêtera jusqu'à Rabbi Moshe Cordovero. Mais en tout cas, deux de ces grands auteurs qui ont parlé de la vérité du milieu comme vérité de l'unité, c'est Maïmonide d'une part et Rabbi Moshe Cordovero d'autre part. C'est un peu à ce point que je faisais allusion tout à l'heure en disant que les analyses que André Neher nous donne à ce sujet peuvent être reprises en sujet d'étude et pourraient être discutées. Il dit ceci. Le Maïmonide déjà je dirais surtout de Maïmonide en langage philosophique et on induira pour le Ramak en langage kabbaliste. J'y ferai moins allusion. Maïmonide, déjà, en particulier dans son Shmona Prakim, qui est parallèle au Derech HaHaim du Maharal, le commentaire des Pirkei Avot, avait indiqué que la vérité ne se trouve pas dans les extrêmes, qui sont toujours en divergence, mais se trouve dans l'équilibre du juste milieu. Maïmonide appelle cela le Derech HaEmtzai. Et on aurait tendance à traduire d'Aristote, la voie moyenne. Et c'est repris donc par le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans son enseignement sur l'unité de toutes les valeurs à la fois. André Néer dit, je vais le dire de façon assez schématique pour bien indiquer l'importance du sujet, que jusqu'au Maharal, il y avait le risque que cette vérité du milieu soit neutralisée, soit neutre, soit tiède, soit, immobile, que les deux extrêmes représentant deux absolus tout aussi valables ne se rencontraient dans le milieu de la vérité qu'en s'annulant, qu'il y aurait une sorte de neutralité, d'immobilité, de tiédeur. Je pousse les choses à la limite. Je ne sais pas personnellement si on peut imputer à Maïmonide et à Cordovero jusque-là. J'ai un peu exagéré pour indiquer ce que vous lirez en lisant ce texte. Je crois que c'est un peu par méthode qu'André Néer a voulu montrer la mutation qui se produit avec le Maharal. Au contraire, cette rencontre des extrêmes se fait dans une rencontre dynamique de ce qu'il appelle un face-à-face, et je voudrais lire quelques phrases à ce sujet, qui dépasse radicalement ce que le lecteur, l'étudiant de la Torah de Maïmonide, de la Torah de Cordovero, pouvait recevoir sans être prévenu. Je reprends un peu très rapidement ce que dit Maïmonide. Les vertus exagérées deviennent le mal. Il y a là quelque chose d'extrêmement important. C'est l'exagération de la vertu et la source du mal. Et je ne le répéterai pas une troisième fois, mais il y a là un choc de la découverte de l'enseignement de Maïmonide. Que la vertu authentique se trouve dans le juste milieu. Sauf pour une vertu, et là il se base aussi sur l'enseignement du Midrash, qui est la vertu de modestie, nous dit-il, on n'est jamais assez modeste. Et il y a des enseignements importants à ce sujet, mais ce n'est pas le lieu d'en parler trop, mais cette exception y compris, eh bien, toute vertu exagérée devient dangereuse, devient néfaste, devient dévastatrice. Il y a là une intuition du monothéisme de l'unité qui est très importante. Et c'est pourquoi Maïmonide situe la vertu du tzaddik dans le juste milieu, dans le derech haEmtzai. Eh bien, pour le Maharal, cette situation du derech haEmtzai, et là, sans dire que c'est différent de Maïmonide ou que c'est contraire, mais pour parler du Maharal lui-même, est la situation la plus vivante que la créature puisse connaître. Il y a à la fois, je reprends le terme d'André Néer, sécurité et insécurité, mais c'est l'histoire de la créature mise en jeu dans l'histoire du monde qui est située dans le milieu. Parmi les différents textes que j'ai soulignés à ce sujet, je voudrais vous lire un de ces textes, c'est la page 173 du Puits de l'Exil. C'est la manière dont André Néer nous parle du Emtsa, c'est une des analyses, en tant que face-à-face. Voici ce texte. Face-à-face, c'est précisément la perspective dans laquelle le Maharal envisage le milieu. Certes, il y a chez lui également des approches timides, des définitions timorées, des rappels de la règle d'or et de l'arbitrage. Mais nous avons essayé de montrer, en suivant dans notre introduction les lignes de pente de la dialectique du Maharal, que celui-ci ne mentionne les étapes statiques du Emtsa que pour mieux s'en éloigner. Le Maharal commence par citer ses prédécesseurs qui ont indiqué le Derech HaEmtzai, le Emtsa, mais avec le risque que ce soit ce point neutre dont j'ai parlé tout à l'heure, le niveau statique. Ce sont des repoussoirs qui l'aident à mieux prendre son élan et au rythme de cet élan, rien ou guère ne rappelle plus les stations précédentes. Avec le Maharal, le milieu Emtsa conquiert une réalité ontologique. C'est une donnée pure de l'absolu avec laquelle il faut compter. Rien ne sert de l'esquiver de la tournée. Il faut l'aborder de front. Et cet affrontement déclenche une aventure au départ aux démarches multiples et hardies. Je saute un paragraphe et pour aller maintenant arriver au paragraphe suivant. Cette conception repose sur la paradoxale simultanéité des contraires souvent relevée par les kabbalistes. La création n'est-elle pas simultanément finie parce que créée et infinie parce que créée par Dieu? L'homme n'est-il pas simultanément physique parce que créature et métaphysique parce que créature d'eau et d'âme? Mais au lieu de quérir le dépassement de ces contradictions à la source ou dans la fin, au lieu de remonter ou de descendre le courant des contrariétés jusqu'à aboutir à la cause ou à la finalité conciliante, le Maharal aperçoit et place le dépassement au-dedans même de la contradiction au plus fort du courant. Il suffit de lire ces quelques lignes pour se rendre compte de la spécificité de l'enseignement qui nous est donné ici. À la fois cela ressemble, et cela n'a plus rien à voir, avec ce qui a pu être dit de cette vérité du milieu, tant par les philosophes grecs d'un côté, que par ceux de la tradition juive qui s'inspiraient de la problématique grecque. Voici donc un exemple, je crois que je vais me borner d'ailleurs à cet exemple, un exemple de ce qui a fait irruption dans le monde de la culture juive avec cette découverte du Maharal. J'aurais bien évidemment énormément de choses à ajouter, mais je voudrais terminer par quelques réflexions. Vous rappelez du Midrash que j'ai cité tout à l'heure, le Midrash de la mort de Moïse. Et d'autre part, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai dit, je le répète, en préparant ces réflexions, je me suis rendu compte, je crois que je l'ai dit, mais je le répète, je me suis rendu compte que, mises par écrit, ces réflexions m'auraient demandé, en tout cas à moi, un travail considérable et très long, et je crois que c'est ce travail qui, cependant, doit être fait. Je voudrais conclure sur la remarque suivante. Comme tout le monde le sait, le Maharal est étudié de notre temps. Et cela signifie que non seulement il a été initiateur mais précurseur, je crois que ce qu'il faut éviter, c'est que André Neher ne soit compris et étudié qu'avec le même décalage de temps. Parce qu'il a été lui aussi un initiateur et un précurseur. Et je crois que le rôle de l'association des amis d'André Neher serait d'arracher cette œuvre à l'avenir et de l'attacher au présent. Et il y a là un programme de travail considérable. Peut-être avez-vous des remarques ou des questions dans la mesure de mes moyens.
La différence entre les Grecs et les Hébreux, c'est que les Hébreux, quand ils exposent quelque chose, ils l'exposent aux Grecs. Les Grecs sont uniquement un raisonnement de ça.
C'est-à-dire, je crois qu'il y a des deux dans les deux. Et il s'agit surtout d'une question de dominante. On pose souvent la question au maître du judaïsme. Comment se fait-il qu'on croit ce que vous dites? Alors, ils ont l'habitude de répondre, c'est parce que nous-mêmes, on y croit. Et comme nous faisons cela de cette manière, d'avoir un yotim la lèvre, enfin, c'est la lèvre. Quelque chose qui sort du cœur rentre dans le cœur. Mais je crois que c'est un peu plus profond. Et lorsqu'on découvre des enseignants dont on pressent qu'ils croient dans ce qu'ils disent, alors ça prend une autre dimension. Je vous en prie.
Ma question est sur le titre, le fruit de l'exil, sur la métaphore. Certainement que le fruit dans le Midrash a été abondamment pensé. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le Maharal
Je vous avoue que je me suis posé la question. Et puis je ne sais pas si j'ai eu une fois la réponse, mais en tout cas je ne l'ai pas du tout à l'esprit. En hébreu c'est Beragola. Peut-être que vous avez quelques indications là-dessus. Ben, est-ce que quelqu'un a entendu d'en donner lui-même une explication à ce sujet? Pourquoi il a choisi ce
Beragola?
Pourquoi le Maharal a choisi?
Je cite comme ça de moi. il traite de la Géoula et de la lutte dans ce problème aussi, je veux dire. Et le puits de l'exil, c'est-à-dire les profondeurs de l'exil, recèlent la possibilité d'une Géoula. Je crois que c'est ça, c'est une espèce d'émergence de l'intérieur.
J'ai en tout cas étudié ce thème dans l'État Israël.
Dans l'État Israël,
on a dit l'exil est une situation non naturelle, et itinérante en hébreu. Et l'expérience du non naturel, c'est la certitude que cela prendra fin. Parce qu'il est de la nature du non naturel d'avoir une fin. Et donc, l'expérience de l'exil comme telle, c'est déjà la certitude de la Géoula.
Dans ce sens. On a entendu qu'il dit Galo et Gaol.
Et c'est
Mais Vers, il ne faut jamais oublier, madame, Vers, ça veut dire expliquer.
Je crois que dans la culture universelle, ce thème que la vérité sort du puits est très connu. Mais je me souviens du récit de la Torah concernant le puits où Jacob a rencontré Rachel. C'est un récit extrêmement important. On voit cette scène qu'il fallait que tous les bergers se rassemblent pour avoir la force de dégager la pierre qui couvrait l'orifice du puits. Lorsque Jacob arrive et voit Rachel, alors ça lui donne les forces à lui tout seul, face à tous les autres bergers, de lever la pierre du puits. En tout cas, en ce qui concerne la relation entre le puits et la vérité. Maintenant, votre question, vous nous posez un sujet d'étude. Je me souviens de me l'avoir posé, mais je ne me rappelle pas la réponse.
Il n'y a pas justement le fait qu'il y a une lutte à l'équilibre de descendre au sujet cette eau du fond pour remonter vers la.
Heureusement que vous avez ajouté ça, à condition de remonter.
Ouais. Ça, ça ne se sent pas remonter, non. Cette nécessité d'exil ne peut être
créée
différemment.
Vous savez, c'est un.
Dans l'idée qu'on va utiliser quelque chose, il va venir encore vers quelque chose d'autre.
C'est un très grand problème. C'est un très grand problème. Alors, nous conseillons chaque fois, à propos de cette question, de réétudier le Netzach Israël. C'est un grand. Une minute, je vais citer un enseignement du Maharal, et qui me semble extrêmement important pour notre génération. Le Maharal vit et enseigne vers la fin des 2000 ans d'exil, puisque nous nous trouvons à la veille du XVIIe siècle, et donc c'est à peine quelques temps avant la fin des 2000 ans d'exil. Comme vous le savez, il y a une source très importante à la tradition juive, que l'histoire de notre monde en calendrier hébraïque a trois périodes de 2000 ans, 2000 ans avant Abraham, 2000 ans d'Abraham jusqu'à la destruction du Temple, et 2000 ans qui pouvaient être les temps du Messie et qui sont les temps de l'exil. Et alors, Maharal dit très clairement, le Davonanou Arabim, Abonot Arabim, à cause de nos très grandes fautes, on n'a pas mérité ce mérite exceptionnel que la fin arrive le plus vite possible. Et nous nous trouvons à la fin des temps de l'exil. Et là, nous pouvons avoir dans cette perspective qu'un bilan a posteriori de ce qui s'est passé dans l'exil. Mais a priori, je crois que tous les rabbins sont d'accord pour dire qu'ils auraient souhaité en faire l'économie. Je dis bien a priori. A posteriori, ça s'est passé comme ça, alors on attend la résurrection, dit le Maharal. Okay. L'important, c'est d'arriver à la fin des 2000 ans des temps d'exil, au temps de Triat HaMetim et Biat HaMashiach, de la résurrection des morts, de Mashiach, du rassemblement des exilés, c'est autre chose, et de Olam Haba. Un passage très important de Netzar Israël. Je me souviens d'un passage de la Gemara, c'est cette fameuse Sougia où on raconte que Rabbi Yochanan était tombé malade, ses collègues sont allés le visiter et lui ont demandé, Chavivin, Alechai Sourin, est-ce que ces épreuves te sont chères, puisque sous-entendu, ça a une finalité, qu'on remontera du tréfonds enrichi, un peu dans ce sens. Il répond, Lohen Veloshraan, ni elle, ni leur salaire. Dans la tradition juive, a priori, les épreuves sont refusées. Si elles arrivent, quelle que soit leur cause, on tente de les transfigurer, de les sanctifier. Mais a priori, jamais. Par conséquent, je dirais que c'est un sujet extrêmement important, la question que vous avez posée.
Mais est-ce qu'il dépend forcément des abandons de l'homme ou des destins divins ?
J'ai dit quelles que soient les causes. C'est un sujet que nous étudions très très attentivement dans le Midrashim, surtout au moment de l'histoire d'Abraham, la première annonce de l'éventuel exil donné à Abraham. Et le Maharal a étudié ça dans plusieurs chapitres de Gevurot Hashem, en montrant que la nécessité du lien d'Israël à l'universel humain n'était pas forcément la fatalité de ce que nous appelons l'exil. C'est-à-dire que cela se passe dans cette persécution, dans cette ténèbre qu'a été l'histoire des Juifs en exil chez les nations. Le lien universel aurait pu avoir une toute autre nature dans la gloire, comme toute une partie de la prophétie l'annonce, s'il y a un mérite suffisant. Et c'est pourquoi nous qui sommes une génération où nous déprenons de l'exil, eh bien nous devons beaucoup aux explications du Maharal. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais il y a sûrement un lien, même indirect, dans le fait que ceux qui s'occupaient de pensée juive en France ont fait leur alia après la découverte du Maharal. Enfin, je raccourcis ici beaucoup de choses, vous le devinez, mais je ne crois pas que ce soit fortuit. Soit que ceux qui ont vraiment appris avec le Maharal la centralité d'Israël ont fait leur alia. Les autres sont encore en exil. Pardon.
Vous avez dit que le génie dans le Maharal de Prague qui a été le premier qui a traité dans l'univers du Parage par rapport à celui de la fille du monde et de la...
Très bien.
Alors, donc, il y a une question que est-ce que le Maharal de Prague et André Maire répondent à la contradiction apparente entre l'omniscience de Dieu et le libre arbitre de la...
Oui. C'est pas une question de Midrash.
Non,
c'est pas une question de Midrash. Écoutez, cette question est d'abord étudiée chez Maïmonide. Je n'ai pas de réponse en pressant sur un bouton et cela vient. Mais il faut d'abord savoir poser la question. Où se trouve la contradiction? La contradiction ne se trouve que si on ajoute à la notion de l'omniscience de Dieu celle d'une privation totale de la liberté pour l'homme. Or, si vous me permettez, je me retrouve tout de suite le passage où André Néer en parle, et d'ailleurs dans une controverse entre le Maharal et Maïmonide, c'est à la page 195. Je vais vous lire ça. C'est un chapitre intitulé « La nostalgie réciproque », la nostalgie de Dieu pour l'homme, la nostalgie de l'homme pour Dieu, que je vous invite à lire avec tout le livre d'ailleurs, et où je prends la dernière phrase du premier paragraphe, où André Maire formule la proposition suivante, qui ne peut être entendue que si elle est étudiée dans son contexte. L'homme a besoin de Dieu, Dieu a besoin de l'homme. C'est très précisément par ce dilemme que s'ouvre le Mishneh Torah de Maïmonide. En quatre rapides paragraphes, le théologien nous introduit dans l'impasse. C'est l'impasse que vous désignez. Je vais formuler ainsi, où Dieu est tout, du point de vue de son omniscience et de son en français j'ai oublié, toute puissance, et alors l'homme n'est rien. Et ou bien l'homme est libre, alors il est tout, et ça fait évanouir la transcendance de Dieu. C'est cette impasse que vous décrivez. En quatre rapides paragraphes, le théologien nous introduit dans l'impasse. On ne saurait mieux rendre inutile le volumineux développement qu'annonçait le Mishneh Torah dans la suite. Écoutons. Alors il cite le Mishneh Torah. Je veux dire, André Néer cite le Mishneh Torah d'abord. Le fondement des fondements et la base des sagesses, c'est de savoir qu'il y a un premier existant de qui émanent tous les existants. Et tous les existants du ciel et de la terre et de ce qui se trouve entre eux n'existent que par la vérité de son existence. Si par hypothèse il n'existait pas, rien n'existerait. Et si par hypothèse rien n'existait que lui, il existerait seul, car leur absence n'entacherait en rien sa présence. Tous les existants ont besoin de lui, mais lui n'a nul besoin d'eux. Or, André Néer met en évidence de façon très claire, et ça je peux résumer, que dans ce texte de Maïmonide, on voit très bien que les théologiens avaient l'habitude de mettre l'homme en hypothèse et Dieu en affirmation absolue. C'est clair, je pense. Vous vous rappelez de ce que vient de dire le Mishneh Torah. Et André Neher met en évidence que le Midrash, comme l'enseignait le Maharal, met toujours l'hypothèse en Dieu et l'affirmation d'existence en l'homme. L'expression Kiryakol, pour ainsi dire, par hypothèse, c'est toujours quand le Midrash parle de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le balancement. Okay. Encore une fois, le théologien philosophe part de l'affirmation que l'absolu, c'est Dieu. Et donc, ce n'est que par comparaison d'hypothèses qu'on attribuera l'existence à l'homme. D'où la question. André Neher montre que, grâce au Maharal, nous le savons grâce au Maharal de manière aussi énergique, le Midrash inverse cette problématique. Dieu n'est pas le Tout-Puissant comme le suggère une terminologie superficielle et vulgaire, mais l'être qui accepte de limiter son pouvoir et qui, dans cette conscience limitative, veut être désigné précisément par le nom de Shaddai, que l'on traduit à la légère par Tout-Puissant. Shaddai, c'est au contraire Dieu qui dit à son pouvoir « jusqu'ici, pas plus loin ». Shamar le'ilakuto dai, vele alamo dai. Ça, c'est la manière dont le Midrash parle de la toute-puissance de Dieu, et non pas la manière dont les philosophes en parlent. Les philosophes ignorent ce que les kabbalistes enseignent directement, mais le Midrash en inspire, que Dieu, pour laisser une place à l'existence de l'homme, a limité sa toute-puissance. Et par conséquent, dans la problématique du Midrash, la question que vous posez ne se pose plus sous forme d'impasse. J'ajouterai une indication que le Maharal nous donne dans le Nouveau Tachem. C'est exactement la vertu que l'on attribue à Dieu lorsque nous disons, par exemple, dans la prière « Atta Gibor, tu es le Tout-Puissant ». Alors, voici quelle est l'explication que nous avons de tous ces maîtres. C'est que dire de Dieu qu'il est Tout-Puissant, est-ce que c'est vraiment l'affirmation d'une louange, ou est-ce que c'est pas l'allusion à l'hypothèse d'un blasphème? Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait ne pas l'être? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'être tout-puissant, s'il est Dieu? Et je ne parle pas ici, je ne fais pas allusion ici au système des attributs négatifs de Maïmonide. C'est encore un autre problème. Mais déjà, le Midrash et la Mishnah nous expliquent ceci. Je vais citer une Mishnah du Pirkei Avot. Ezehu Gibor Akore Shetitro. De qui peut-on dire qu'il est vaillant? De celui qui maîtrise ses propres pulsions. C'est-à-dire, dire de quelqu'un qu'il est plus fort que quelqu'un d'autre, c'est pas une louange, parce que ça veut dire que l'autre était plus faible. Dire de quelqu'un qu'il est plus fort que lui, c'est pas possible. Par conséquent, la véritable vaillance, c'est d'être plus fort que soi-même. C'est une vaillance énorme, considérable. Être plus fort que soi-même, c'est la vraie vaillance. Alors, c'est ce qu'enseigne le Midrash, qu'à l'origine, c'est la notion du Tzimtzum chez les kabbalistes. Qu'à l'origine, Dieu décide de limiter sa toute-puissance pour laisser place à la liberté de l'homme. Et c'est pourquoi la Gemara, la Haggadah, mais c'est la Gemara, enseigne que tout peut être dit, prévu dans l'omniscience, sauf le choix moral de l'homme. Et philosophiquement, nous n'avons pas encore entendu de réponse. Nous avons l'intuition qu'il y a une manière de penser qui fait éclater le problème, qui évacue le problème. Il n'y a pas d'un côté la liberté de l'homme et de l'autre côté un contraire absolu, une toute-puissance de Dieu qui annule la liberté de l'homme. Il y a la liberté de l'homme par volonté de Dieu et donc une toute-puissance qui se définit par les limites de la liberté de l'homme. C'est le secret de la tshuva. Vous savez très bien que... Enfin non, c'est un sujet pour lui-même. Je parle trop schématiquement, mais j'espère que c'est suffisamment clair. La tshuva, le fait qu'il soit possible de se repentir, c'est un chidouche de la Torah. La pensée naturelle refuse la notion du repentir, pour énormément de raisons, et d'ordre moral et d'ordre intellectuel. Mais le fait que la tshuva soit possible implique que Dieu tient compte de la liberté de choix de l'homme. C'est ce qui nous explique pourquoi les 10 jours de tshuva sont après le jour du jugement et pas avant. Normalement, pour la pensée naturelle, philosophique, on s'attendrait à ce que les 10 jours du repentir nous soient donnés avant Rosh Hashanah. C'est avant que le verdict soit donné qu'on nous donnerait un sursis préalable pour améliorer le dossier avant le jugement. Or, paradoxe, il y a le jugement et après les 10 jours de Tshuva. Vous entendez la question, okay? Et la réponse est très simple. Ça veut dire, s'il n'y a pas de Tshuva, voilà le jugement. J'ai une fois employé l'image des deux angles opposés par le sommet, pour indiquer cette relation du temps entre le passé et le futur. S'il n'y a pas liberté à l'intersection entre le futur et le passé, c'est le passé qui définit de manière déterminée ce que sera le futur. Donc à chaque instant nous sommes jugés, c'est récapitulé dans le jour de Rosh Hashanah, s'il n'y a pas repentir, eh bien voilà que le passé commande, détermine de manière absolue ce que sera le futur. Mais à l'intersection, il y a notre liberté. Ce qui fait que, perpétuellement, Dieu sait à l'avance ce qui va se passer si on ne se repent pas. Et perpétuellement, nous sommes capables de changer l'avenir, et perpétuellement, dans l'instant même, Dieu connaît cet avenir. Est-ce que c'est clair? Il y a en tout cas là une perspective de pensée qui est complètement en dehors des catégories philosophiques. Ce qui fait que Maïmonide sera obligé de dire que nous ne pouvons pas maîtriser le problème parce que nous ne pouvons pas savoir comment Dieu sait et que ça reste un mystère. Mais en tant que rabbin, il n'en pense pas moins. Alors qu'avec le Maharal, nous avons cette clé que c'est dans les catégories hébraïques qu'il faut reposer les problèmes de la philosophie grecque et pas dans la catégorie grecque. Puisque j'ai parlé de grammaire, là, c'est important de voir que l'hébreu est la seule langue où on peut changer le futur en passé et le passé en futur. Donc l'hébreu, avec le verbe conversif, donc l'hébreu est la seule langue où on peut penser la tchouva. Or en grec, le passé c'est toujours un passé accompli complètement, ils appellent ça l'aoriste, d'ailleurs ils ont même un aoriste second, c'est complètement fini. Et l'avenir n'est que avenir. Il n'y a pas cette capacité d'inversion des contraires que permet l'hébreu. Alors voilà, à travers votre question, nous retrouvons le problème de méthode. Tant qu'on pense le judaïsme en grec, à travers les catégories grecques, il n'y a pas d'issue. On rentre dans des impasses. Il faut le penser en hébreu. Et comment le penser en hébreu? Grâce au Midrash. C'est ça le génie du Maharal, et c'est cela que ce que nous avons appris.
Alors, dire au maître qu'il nous attend éclairé ce soir, ce serait un blasphème, ça voudrait dire qu'on aurait pu penser, ce qui n'a pas été. Je voudrais signaler simplement que la prochaine exposée sur la pensée d'André sera fait le... Je ne sais pas si la date est fixée.
La date est fixée, mais je n'ai pas en mémoire, c'est le premier mardi du mois de décembre.
C'est le premier mardi, et ça sera précisé, c'est Beno Gross qui traitera de André Néer et la critique biblique.
Yes, sir.